séance de Nicolas Frise à Radio Grenouille.
Maintenant !
Serge Pizot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable syndical. Vous travaillez dans une entreprise qui fut autrefois une entreprise publique. Et aujourd'hui, comme toutes les entreprises publiques, elles sont menacées par la privatisation. Alors on va, si vous voulez bien, essayer d'analyser un peu quelles sont les conséquences de cette évolution. J'imagine que vous trouvez plutôt négative et néfaste. On va envisager trois aspects. Le premier, c'est en quoi cette privatisation est dangereuse pour l'usager des services publics.
Ben, qui dit privatisation dit rentabilité maximum, hein, puisque derrière la privatisation, il y a l'actionnaire. Et l'actionnaire, il n'est pas là pour faire des cadeaux à personne, il est là pour gagner de l'argent. Donc l'incidence sur l'usager, ça risque d'être un coût peut-être moins maîtrisé que ce qu'il pouvait l'être, à tout le moins un coût moins régulé. Donc ça veut dire que des maîtrises de coûts qui appartiendront à la volonté d'un conseil d'administration. Et le plus grave qu'on pourrait craindre dans ce système-là, c'est ce qu'on appelle chez nous la péréquation tarifaire. C'est-à-dire que le prix du kilowattheure gaz ou le prix du kilowattheure électricité ou le prix du timbre-poste, puisque c'est la même logique, est le même partout. Qu'on envoie un courrier de Marseille au fin fond du Larzac ou qu'on envoie un courrier de Marseille à l'autre côté de la rue, c'est le même prix. Alors on peut penser que l'un paye plus cher que l'autre, mais ça s'appelle la solidarité et ces péréquations-là seront forcément menacées par des soucis de rentabilité.
Du point de vue de l'usager, donc, privatisation rime avec augmentation du coût du service.
Ça risque de rythmer avec augmentation du coût de service et ça va forcément rythmer avec disparité. Le prix de l'eau, par exemple, qui est privé, le prix de l'eau n'est pas le même nulle part en France. Et on peut dire que même dans certains endroits, il est très très cher.
Donc c'est aussi un facteur d'inégalité.
C'est certainement un facteur d'inégalité, c'est sûr, bien sûr, bien sûr.
Alors que le principe du service public, un des principes du service public, c'est le principe d'égalité, d'accès de tous les citoyens à ce service public. On est donc entré dans une civilisation de l'inégalité.
On est rentré dans la logique de rendement maximum et on est rentré dans une logique de pour avoir un service, on paye. Alors le risque derrière tout ça, c'est ce fameux service universel là, qu'on nous oppose à service public. À savoir que pour ce qui concerne l'énergie, on pourrait dire par exemple, tout le monde a droit à l'énergie. Ça, c'est le minimum qu'on puisse dire aux gens. Mais après, la qualité de l'énergie, les services liés à cette énergie, alors ça aura forcément un coût, donc on demandera aux gens de payer ce coût, et avec le risque de créer des inégalités et forcément, bien sûr, de créer des zones d'injustice.
Un autre aspect négatif de cette privatisation, c'est la question bien entendu déterminante de l'emploi et notamment de l'emploi pour les agents du service public. Leurs emplois sont menacés.
Alors aujourd'hui, oui, on peut imaginer que les emplois seront menacés. Alors déjà, il faut dire que les entreprises de services publics ont préparé la privatisation en faisant de grosses coupes sombres dans les emplois qui étaient utilisés pour remplir les missions. Et forcément, avec des conséquences sur le service, bien sûr, puisque là où on pouvait imaginer, où il y avait 5 personnes, il n'y en a plus que 2 maintenant. Donc, l'emploi est menacé parce que toujours sous-tendu par la logique de rentabilité. Et forcément, quand on met rentabilité maximale derrière un service, ben c'est l'emploi qui a subi les conséquences. On tape dans la masse salariale. Après, il est bien évident aussi qu'on peut taper aussi sur la qualité du service, parce que forcément, des compétences peut-être moins rémunérées, et il y avait des risques sur les installations, et il n'y a qu'à voir les chemins de fer anglais, par exemple, qui est le modèle même du bordel organisé, quoi. Il n'y a rien qui fonctionne, tellement qu'ils en sont à se poser la question de les renationaliser pour remettre en ordre tout ça.
Un changement aussi radical pour ces agents du service public, c'est un certain esprit de corps. Autrefois, les agents du service public étaient fiers de leur travail et aujourd'hui contractualisés, on peut dire qu'ils ne prennent plus du tout leur travail de la même façon, ils n'ont plus le même rapport au travail.
Ce n'est pas tout à fait comme ça que je le traduirais. En fait, aujourd'hui, on surfe sur la vague de la mission de service public, donc il y a encore une culture du service à la nation. Aujourd'hui, les grosses entreprises de services publics ont créé des modes de fonctionnement autour de modes opératoires, autour de procédures. Et c'est vrai que les gens ont moins de place à l'initiative individuelle parce que, bon, on a pris que la procédure, on met la croix dans la bonne case. Et ça, ça peut être un avantage. Ça peut être perçu comme un avantage si on le regarde comme ça au premier degré. On se dit, si on écrit une procédure, on peut s'imaginer qu'on a pensé à tout, donc on est dans la qualité de ce qu'on fait. L'inconvénient, c'est que si on croit qu'on est dans la qualité de ce qu'on fait, on ne se pose plus la question de ce qu'on fait. Là, le risque est grave. Et là, on risque de mettre en difficulté, quand c'est du gaz, le réseau gaz, quand c'est de l'électricité, le réseau d'électricité. Si c'est la SNCF, c'est le réseau de transport.
Un autre aspect aussi déterminant, c'est la qualité du service. Est-ce que la privatisation est de nature à diminuer cette qualité du service rendu à l'usager ?
Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire ça, peut-être on n'a pas le recul pour le dire, pour l'affirmer. On peut le supposer, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la qualité, à un moment donné, on créera des contraintes de qualité par le service, et le service sera payant. C'est-à-dire que le service public pourra assurer un minimum de service et de qualité du service. Et après, au-delà de ce minimum, je vais prendre un exemple tout bête. Vous n'avez plus d'électricité au fin fond de votre vallée. L'opérateur d'électricité s'engage à vous rétablir dans les 72 heures. Ça, c'est le minimum que la loi peut lui imposer. C'est un exemple, je ne sais pas si c'est dans les faits, c'est ça, mais c'est le minimum que la loi peut lui imposer. Maintenant, il peut intervenir dans les 48 heures ou dans les 24 heures, sauf que ça a un coût.
Un autre aspect aussi lié à la qualité, c'est la notion de sécurité. C'est particulièrement important dans des entreprises comme des entreprises d'énergie. Il est absolument impératif que l'acheminement, par exemple, du gaz soit fait dans des conditions de sécurité maximum, de même que l'acheminement de l'électricité. Est-ce que la privatisation de ces services ne va pas avoir pour conséquence une augmentation des risques, aussi bien pour les usagers que pour les riverains ?
Non, il y a une culture aujourd'hui de la sécurité, c'est-à-dire que les gaziers et les électriciens ont conscience quand même du danger potentiel que peut représenter l'énergie qu'ils transportent. De même pour la SNCF, aujourd'hui le réseau ferré de France, enfin toutes les structures de la SNCF, on voyage relativement tranquillement dans nos trains. Il y a cette culture-là. La problématique, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on met trop les actes en procédure, si on met trop les actes en mode opératoire, on a encore le risque de penser que tout a été étudié et de moins se poser la question de ce qu'on fait quand on le fait. Et là, ça peut être dangereux. Mais ce n'est pas lié à la privatisation, c'est lié au mode de pensée qu'ont les entreprises aujourd'hui à vouloir rentabiliser les systèmes, à vouloir rémunérer les actionnaires en fonction de leurs demandes. On a supprimé des emplois. Quand on a supprimé des emplois, on a forcément créé des modes de comportement et des façons de travailler qui sont trop théoriques et qui peuvent laisser la place à la confiance totale au système et puis donc laisser passer l'erreur qu'on peut ne pas mesurer parce qu'on ne s'est pas posé la question de cette erreur-là.
Mais j'imagine quand même que ces installations ont besoin de vérifications très régulières. Je crois que les installations de gaz sont vérifiées annuellement. Et il est possible, envisageable, que pour des raisons de rentabilité, justement, ces visites régulières soient beaucoup plus lointaines et qu'on finisse par avoir, du coup, des problèmes de sécurité.
Ça, c'est le risque. Ça, c'est le risque. Effectivement, c'est le risque qu'on peut encourir. Sachant qu'en France, on a une chance, c'est qu'on a, pour ne parler que du gaz, on a un réseau qui est relativement jeune. Donc relativement fiable à quelques exceptions près, l'histoire, l'actualité récente l'a montré. Donc c'est vrai qu'à terme, si personne ne se pose la question de l'investissement, on peut avoir des installations vieillissantes, mais c'est vrai pour tout, hein, pour tout ce qui est électrique, transport, c'est vrai qu'à terme on pourrait avoir des soucis. Aujourd'hui la question ne se pose pas là, mais j'en reviens à ce que je dis, et c'est trop rentabiliser les systèmes, on court le risque de les rendre trop fragiles.
Restez à l'écoute de Maintenant, tous les jours, à 17h et 6h30, pour la suite de cet entretien avec Serge Pizot, représentant syndical, à propos de l'évolution des entreprises publiques.
Maintenant.
Rejoignez-nous www.maintenant.fr